plein de questions sur des sujets divers et variés. Tissubus FM fait appel pour toi à des personnes expérimentées.
Un expert te conseillera, te donnera des clés de réussite ou encore te partagera ses expériences pour que tu deviennes ainsi un pro sur toutes les discussions abordées chez toi ou en vacances. Alors, si t'as un sujet qui te botte et que t'aimerais bien en découvrir toutes les facettes lors d'une prochaine émission, faites... Eh oui, bienvenue à cette nouvelle émission de questions en vrac à Le Brac. Quand on est bénévole au sein d'une association, on est souvent amené à prendre des responsabilités, mais on ne sait pas forcément toujours ce que cela engendre. On sait bien que quand tout va bien, mais il faut pas attendre de rencontrer un souci pour se poser des questions. Et donc pour nous éclairer un petit peu sur ce sujet justement des responsables, des dirigeants associatifs, j'accueille au téléphone Tiphaine Rollin, donc chargé de mission associatif. Je vous laisse déjà nous en dire un petit peu plus sur le programme, un petit peu de cette émission.
Oui, on va parler, déjà revenir un petit peu sur qu'est-ce que ça signifie être dirigeant. Quelles sont les responsabilités et les obligations aussi d'un dirigeant, et puis leur place aussi au sein de l'association, comment ils sont désignés. L'idée, c'est un petit peu de désacraliser, de donner plus d'informations pour peut-être...
Question du dirigeant.
Oui, alors les dirigeants associatifs, en fait, ils sont élus. Et ils sont prévus dans les statuts de l'association. On avait fait une émission sur ce sujet, hein, pour l'importance des statuts. Parce que du coup, dans les statuts, ça va indiquer comment le dirigeant va être élu, quelle va être sa fonction, les conditions d'accès aussi, notamment l'âge, on y reviendra tout à l'heure. La durée, le mandat, il est révocable en assemblée générale, mais il fait partie de... Alors, j'aime pas tellement le mot, mais on appelle souvent ça l'organe souverain, c'est-à-dire l'assemblée générale et le conseil d'administration. Et ça, il est là pour représenter la personne morale qui est l'association, soit en fonction de sa fonction, soit en tant que président, que trésorier, ou parfois aussi on peut avoir d'autres formes de gouvernance, comme on verra plus tard. Donc voilà, c'est une fonction qui est extrêmement importante à l'un ou plusieurs de ses dirigeants.
D'accord. Ça marche. Et justement, ces dirigeants, rappelez hein, quand même comment ils sont désignés.
Alors justement, j'avais commencé un petit peu à l'évoquer, mais effectivement, c'est en fait, il y a deux principes de désignation, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de dirigeants. Du coup, l'Assemblée générale, les membres en tout cas de l'Assemblée générale vont désigner un conseil d'administration. Peuvent être aussi avoir la prérogative au sein du conseil d'administration de désigner de nouveaux membres dirigeants qui voudraient rejoindre activement l'association et son projet associatif.
Et rappelons aussi qui peut être dirigeant associatif. Ça paraît logique, mais vous toujours le rappelez.
Oui, en fait, ça paraît logique, notamment parce que on va parler dans quelques secondes de l'âge, hein, mais en fait, tout le monde peut être, toute personne en tout cas, sous l'association. Donc, tout le monde peut être dirigeant. Et c'est donc l'Assemblée générale et le conseil d'administration, quand il existe, qui vont nommer ces dirigeants-là. Et en fait, le président, il est souvent, quand l'association est toute jeune, sélectionné parmi les fondateurs, ou en tout cas, il faut qu'il soit largement impliqué parce qu'il va avoir un rôle un petit peu plus important que d'autres membres dirigeants. Et plusieurs casquettes peuvent être aussi liées, ou parce qu'elle en est à ses débuts, et d'où l'intérêt aussi d'avoir d'autres personnes et de bien choisir sa place qu'on se lance dans l'aventure.
Un premier élément, à mon avis, des auditeurs ont appris quand je vois la réaction de mon collègue Baptiste en face, c'était « Ah oui, 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 voilà !» Donc, qui ne savait pas forcément qu'effectivement, on pouvait avoir plusieurs casquettes. Et justement, on parle souvent de la loi 1901 par rapport aux associations.
Pas le droit, la loi, il dit ça. Mais en fait, non. La loi, elle impose pas grand-chose. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi sa force. Elle n'impose d'ailleurs même pas aux associations d'avoir un dirigeant, à part si c'est prévu dans les statuts. Donc, d'où l'importance hein, vraiment de ces statuts-là et d'indiquer ce qu'on veut. Il y a presque pas de disposition concernant le fonctionnement statutaire des associations. Du coup, en fait, pour citer vraiment, j'ai des bénéfices. Du coup, ensuite, à charge de ces deux ou plusieurs personnes de définir la façon dont ils veulent travailler leur gouvernance et s'ils veulent nommer un dirigeant ou s'ils veulent fonctionner d'une autre manière. Et c'est dans les statuts que tout ce qui est droit, obligation, fonction seront détaillés.
Oui, c'est bien de le préciser parce que souvent en fait on a des idées fausses justement sur beaucoup de choses mais aussi sur l'assortiment. Et donc quels sont les pouvoirs on va dire principaux? Vous en avez déjà cité quelques-uns, mais des dirigeants associatifs.
Oui, celui que j'ai déjà cité, hein, c'est celui de représenter l'association, la structure morale en public, hein, à du public, à des partenaires, à l'administration aussi, puisque il faut, par exemple, les statuts, les procès-verbaux, il faut les signer, donc la préfecture, il faut bien que c'est eux qui sont décisionnaires, hein, ils représentent ensuite des organes, on les a cités, conseil d'administration, bureau, etc., assemblée générale. Et bien souvent, il y a une ou plusieurs personnes qui sont mandataires, donc de signature. On parle souvent, ce qui parle beaucoup peut-être aux auditeurs, hein, c'est ce qui concerne la banque. D'ailleurs, moi, je conseille très régulièrement qu'il y ait deux mandataires de signature auprès de la banque en cas où vacances, maladie ou autre. Et donc, c'est aussi important du conseil d'administration, du bureau et de l'assemblée générale. Donc, soit le président parce que sa fonction a été désignée dans les statuts, soit ça peut être le secrétaire qui est en charge de l'organisation et de ces convocations-là.
Très bien. Et justement, vous parliez juste avant un petit peu de l'âge. Est-ce que un mineur peut être dirigeant d'une association?
Alors oui, c'est dommage qu'on ne soit pas en face. J'aurais voulu voir la réaction de Baptiste, justement. statutaire contraire. Par contre, s'il a moins de 16 ans, il faut qu'il y ait une autorisation préalable de ses parents. S'il a plus de 16 ans, il a le droit d'administrer une association librement. Il faut juste que ses parents soient informés, mais il n'a pas l'obligation d'avoir en tout cas une autorisation signée. Par contre, il faut savoir qu'avec l'autorité parentale, si ses parents ne sont pas d'accord, ils peuvent faire opposition encore jusqu'à ses 18 ans. Louer du matériel, convoquer, justement, on en parlait il y a un instant, une assemblée générale ou un conseil d'administration, aller ouvrir un compte bancaire, tant qu'il est mandaté, qu'il y a eu des dispositions statutaires qui ont été prises, il a le droit de s'en occuper. Et d'ailleurs, c'est assez courant et j'en ai moi au sein du centre de ressources hein, des jeunes qui font partie du conseil d'administration donc ils sont largement.
On en avait parlé il y a longtemps.
C'est vraiment, Voilà, c'est pour faciliter les junior associations l'accès aux jeunes, hein, et c'est une association de fait d'ailleurs, mais j'ai des jeunes de junior associations qui ont construit leur junior association, mais qui sont aussi administrateurs dans des associations, la 1901.
Très bien.
C'est un premier pied dans l'engagement.
Comme on va dire, il y a différents types de membres dans un conseil d'administration. Vous avez parlé, voilà, des membres moraux, des membres physiques, il y a les membres de droit, tout ça, ben pareil.
Moi, on le saura, le dirigeant de droit, en fait, ça concerne les membres du bureau. Donc, je vais employer les termes d'un fonctionnement traditionnel associatif, hein, président, trésorier, secrétaire, avec bien sûr co-président, co-secrétaire, co-trésorier s'il y en a. Et les membres, donc c'est les membres du conseil aussi du d'administration. Alors que ce qu'on appelle les dirigeants de fait, c'est des personnes qui vont pas être investies, en tout cas qui n'auront pas de statutairement. Si je reprends, hein, puisqu'on va continuer avec l'illustration précédemment employée, on peut donner la signature à un trésorier, hein, ça, c'est ce qui se fait le plus souvent, hein, un dirigeant de droit, mais on peut aussi la donner à quelqu'un qui n'est pas impliqué parce que il a par exemple une grande disponibilité, il a envie quand même d'avoir une implication au sein de l'association, et donc c'est ce qu'on appellera un dirigeant de fait. De même, ça peut être du fait de sa disponibilité, parce que auprès de l'administration et auprès des médias. Et ben là, ça va être ce qu'on appelle un dirigeant de fait.
D'accord. Ok. Oui, puis comme je dis, puis ça peut être aussi sur des fonctions, quelqu'un qui va accompagner l'association pour l'embauche ou tout ça de salariés, ainsi de suite. Quoi. La mission du moment où elle est donnée par le conseil d'administration, elle peut être divers et variée. Quoi.
Totalement. Et puis d'ailleurs, pour aller plus loin, hein, c'est finalement quand il y a un délégué ou un directeur d'administration d'association. Donc là, on est vraiment, pour parler d'association employeuse, dans ce qu'on appelle un dirigeant de.
Ok. Eh bien, très bien. Ben, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve, hein, pour continuer à parler des dirigeants associatifs avec Tiffaine. À tout de suite, Tiffaine.
À tout de suite.
Yeah, more than, yeah, all of my friends.
Vous êtes toujours à l'écoute de Petit Gibus FM et on continue notre émission Question en vrac à le vrac avec notre invité au téléphone Tiphaine Rollin, donc chargé de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement du Doubs, avec qui nous parlons depuis le début de cette émission des dirigeants associatifs. Ce que je vous propose, Tiphaine, c'est qu'on membre ces deux instances, le CA, le bureau.
Oui, effectivement, on vient voir la différence entre dirigeant de droit, de fait, qui peut être à l'intérieur et les dénominations. Ensuite, ces membres dirigeants, en fait, ils siègent, on va dire, au sein donc déjà de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale elle-même va élire du coup ces membres dirigeants qui vont faire partie du conseil d'administration. Et ce n'est pas une obligation, mais certainement il y a le président, secrétaire, trésorier, mais pas que. Et puis, alors que le conseil d'administration va vraiment gérer tout ce qui est gestion de budget, et puis les décisions courantes s'il n'y a pas de bureau et le quotidien de l'association. Chacun s'en réfère aux uns et aux autres, et donc c'est des organes qui fonctionnent vraiment de manière étroite, étroitement liée tout au long de l'année.
Et puis encore une fois, la loi n'oblige
pas. Après, j'ai même paniqué et qui m'ont appelé, qui m'ont dit oh, dans leur formation, vous avez parlé du bureau, mais on n'en a pas. Est-ce que c'est grave? Non, ça n'est pas grave. C'est pas forcément nécessaire, en fait.
Ouais, de toute façon, la référence, c'est la loi ou après les statuts de l'association. Et justement, on va revenir un petit peu, on en a un petit peu parlé sur les responsabilités, mais revenir, on sait qu'il y a différents niveaux de responsabilités.
Vraiment, les responsabilités, c'est quand même juste, vu qu'on parle des obligations, des droits et des responsabilités des dirigeants ce matin, je voulais juste reciter qu'il y a quatre grands niveaux de responsabilité. La responsabilité civile, hein, et qui n'exclut pas tout ce qui est faute personnelle hein, d'un membre dirigeant. Et puis, le membre représente aussi la responsabilité de la personne morale, c'est-à-dire l'association. Il y a la responsabilité pénale, administration pour voir si leur responsabilité propre est engagée ou non. Et puis, la responsabilité dont on entend un petit peu moins parler, mais qui est dite fiscale. Et là, ceci, c'est vraiment en cas de fraude auprès de la fiscalité et de fraude répétée en plus par rapport aux obligations fiscales.
D'accord.
Donc ça, c'est les grandes responsabilités, et qu'elles ne fassent pas trop peur, parce que vous voyez bien que les deux dernières, c'est vraiment dans des cas exceptionnels.
Exceptionnels, on est d'accord. Et donc, qui dit les obligations des dirigeants associatifs?
Oui, en fait, il n'y a pas beaucoup d'obligations, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est pour ça que ce matin, je tenais vraiment à parler de ce sujet, hein, c'est que en tant que dirigeant, l'idée c'est de bien s'informer au départ pour pouvoir aussi transmettre l'information. Mais on le voit bien, si l'association, si ça fait déjà 10 ans qu'elle est là et qu'il n'y a pas eu d'erreur et de faute de gestion, la responsabilité ne sera pas d'un point de vue activité, etc. Mais ça, c'est à charge de chacun d'en référer. Mais pour le point de vue de la loi, l'obligation d'information est auprès de son assureur. En cas de changement ou de modification des garanties qui ont été prises en début d'année, en tout cas en cours d'année, il faut absolument penser à en informer son assureur, sinon ça peut avoir des répercussions sur la gestion de la structure morale. Il y a une obligation pour les associations sportives qui est auprès de ses adhérents. Donc ça, c'est la deuxième obligation qui est nécessaire une fois par an. Et enfin, l'obligation qui est la plus récurrente, j'ai envie de dire, parce que toute association va faire un repas ou créer un événement ou avoir des réunions, c'est l'obligation qui est dite de sécurité et de moyens. Elle est vis-à-vis des adhérents, des bénévoles ou du public. Hein, j'en ai cité des exemples type il y a quelques secondes. Et il faut juste vérifier un petit peu pour imaginer une cuisse en référé. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont les plus récurrents, mais finalement, comme c'est du quotidien, la plupart y pensent. Donc, il faut pas avoir peur de se lancer pour ces trois obligations.
D'accord. Ok. Et donc, on a parlé de responsabilité, d'obligation. Cette fois, quels sont les droits aussi du dirigeant bénévole?
Oui. Il y a déjà, il faut savoir qu'un dirigeant, comme par exemple avoir fait au moins 200 heures de bénévolat dans l'année ou 100 heures dans la même association, ou même que l'association a été déclarée depuis au moins 3 ans, mais du coup c'est des choses qui sont pas trop connues et pourtant qui peuvent ouvrir des droits, alors soit pour... ça peut être un bénévole qui est déjà à la retraite mais qui a envie de retourner un petit peu faire des formations. Ça peut être aussi un bénévole actif, mais qui c'est une sorte de validation d'acquis aussi de son engagement, qui lui permettra peut-être une transition s'il a été désigné pour participer à des réunions d'instances qui sont créées par l'État ou une collectivité territoriale. Par exemple, une commune qui... Comment ?
J'allais vous dire, oui, donnez-nous un petit exemple précis.
Oui, par exemple, une instance consultative qui a été créée par une commune. Je pense beaucoup aussi à tout ce qui est... je n'ai plus le nom de l'acronyme, mais les CTG qui sont impulsés à cette question-là. Oui. La Ligue se tient à disposition pour en donner aussi un peu plus. Et puis ensuite, pour la partie salariée. Alors, il y a des dirigeants bénévoles. Il n'y a pas d'obligation de rémunération, bien sûr. Mais ça peut arriver, hein, parce qu'il peut avoir une activité salariée indépendante de son engagement associatif. Et du coup, il y a des dispositifs qui sont créés pour encourager l'engagement associatif et notamment, il n'y a pas plus évocateur. Alors, bien sûr, là encore, hein, il y a des critères hein, pour pouvoir en bénéficier. Et c'est limité quand même à 6 jours par an, qui sont souvent fractionnés en demi-journée. Mais il faut savoir quand même que ça existe et que ça peut être très utile.
Bah oui, en lien avec la réaction de tout à l'heure, là, c'était pas seulement Baptiste qui ouvrait les gros yeux, mais moi aussi, parce que là, j'ai appris quelque chose également.
Tant mieux alors, c'est fait pour ça.
Ben oui. Et je me posais une question sur le passé, c'est une attestation d'un des dirigeants, comment ça marche?
Oui, c'est une attestation d'un des dirigeants, et alors c'est là, hein, ce sera le sujet d'ailleurs d'une prochaine émission, et c'est en fait c'est l'importance. je sais que ça fait aussi toujours un petit peu pas peur, mais en tout cas, il y a des réticences pour les associations de vouloir noter le temps bénévole. Parce que ça peut être l'impression d'être un peu policier, qui permet de noter le temps bénévole que vous faites. Tous ces temps, en fait, de notation permettront derrière d'avoir une attestation. Donc, ne pas penser que demander à ce que le temps bénévole soit inscrit quelque part, ce soit, en termes un peu crus, fliquer les bénévoles. Non, au contraire, c'est valoriser leur bénévolat et leur permettre d'ouvrir des droits parce qu'ils en ont grâce à cet engagement et de le valoriser.
D'accord. Ouais, non, bah c'est
exactement. Engagement. Ouais, tout à fait. Le logiciel Bénévalibre est très intéressant pour ça parce qu'effectivement, le noter, ça permet en fait derrière, il est fait pour ça, pour sortir des fiches et qui permettent de directement ressortir les chiffres qui seront à valoriser dans les demandes de subventions.
Bon, Tiffaine, faut arrêter de donner des sujets encore, hein, parce qu'on va être obligé de vous avoir au téléphone encore plus régulièrement. Hein, c'est sympa. Voilà, des idées, on en a plein, et on en retrouve encore une, parce que je pense que rien que ce logique terminé, vous l'avez dit un petit peu en préambule, c'est vrai que souvent ça fait peur aussi d'être dirigeant. Pourquoi? Pourquoi ça fait peur aujourd'hui d'être dirigeant?
Alors, il va y avoir à la fois de l'objectivité et de la subjectivité dans ma réponse. Déjà, il y a une Recherche et Solidarité qui font des rapports régulièrement et ils en ont sorti un cette année. Et dans l'enquête qu'ils font, il faut quand même avoir conscience que la mobilisation bénévole n'est plus celle d'il y a 10 ans et d'il y a 30 ans. Si on parle à nos parents ou à nos grands-parents, bien souvent, on sait qu'ils ont été investis dans une association et très régulièrement dans la même association pendant de très nombreuses années. Avec, par exemple, le dimanche, moi, ça m'arrive d'accompagner des jeunes qui me disent « Ah, mais oui, je fais du bénévolat avec ma grand-mère. Le dimanche, on va dans telle association. » Bénévolat durable, qui va être donc du coup par coup, une ou deux fois dans l'année, ou alors de manière très ponctuelle, en fonction de son emploi du temps, parce qu'on sait, hein, que ce soit le travail ou la vie personnelle, prend de plus en plus de place aussi, dans le temps que nous avons à accorder ensuite pour une passion ou du bénévolat. Donc ce temps qui est plus ponctuel, il va être calculé en termes de temps donné. Et donc du coup, la responsabilité peut s'impliquer, être dirigeant et avoir une haute responsabilité, par exemple trésorier, mais la faire en duo ou en trio. À ce moment-là, le temps ne sera pas le même impliqué. Si vous êtes dans une petite ou une grosse association, ça ne sera pas non plus le même temps. Il peut y avoir aussi des commissions par projet qui sont créées, et à ce moment-là, une personne désignée sur la partie financière, par projet, ça demande aussi moins de temps. Donc en fait, il faut vraiment, c'est une méconnaissance de ce qu'il y a comme qui vont porter sur leurs épaules l'association, alors qu'il y a plein d'autres possibilités, que ça crée de la méfiance, de la défiance, en plus du temps qui n'est pas aussi important à donner.
Ouais.
Donc voilà, du coup c'est vraiment pour moi déjà s'informer et puis s'aider aussi de quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir avoir un regard et dire oui effectivement pour cette association ça demandera tant de temps d'implication ou alors là non vous pourriez fonctionner différemment des organes et des membres dirigeants parce que trop souvent on dit ça va fonctionner tout seul. Maintenant, il y a besoin aussi de structuration.
Ok. Ah, nickel, c'était important, je trouve, de revenir effectivement sur cet aspect-là et rassurer aussi. Eh ben, merci beaucoup encore une fois, Tiffaine Rollin, qui, je rappelle, est chargée de mission à Vie Associative à la Ligue de l'Enseignement. C'est vraiment chouette, hein. Il y a toujours du concret, de la joie dans Twitch. N'hésitez pas à nous faire des retours. Encore merci beaucoup, Tiffaine, pour toutes ces interventions très pro.
Ben, merci à toi, Laurent, et merci à Baptiste pour ses réactions.
Et donc, comme à chaque fois, si vous avez des